Bonjour, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est une date lourde, puisque c'est le premier anniversaire des attentats du 13 novembre à Paris et Saint-Denis. Et c'est aussi, comme nous l'avons appris ce matin, le dimanche de l'Église persécutée. Et donc, l'humeur n'est pas forcément à la réjouissance, et pourtant. Et pourtant, je vous invite à lire un texte d'espérance, un texte de joie, de consolation. C'est dans dans les premiers chapitres du livre de l'Apocalypse, chapitre 3 plus exactement. Nous allons parler d'une église. Vous savez, il y a une collection d'églises qui ont reçu un petit message par un messager de la part de Jésus-Christ. Et ce message, le message d'aujourd'hui, il est adressé à l'église de Philadelphie. C'est au chapitre 3, verset 7, jusqu'au verset 13. Je ne lirai pas de manière égale chaque verset, je ne commenterai pas chaque élément de ce beau message qui est adressé par Jésus-Christ à l'église de Philadelphie. Je lirai tout d'abord une petite phrase de ce message. Tu as peu de force. Verset 8. Tu as peu de puissance, peu de force. C'est le dimanche de l'église persécutée. Il y a beaucoup d'églises dans le monde qui ont peu de force. C'est pour ça que j'ai choisi, d'ailleurs, c'est la mission Portes Ouvertes qui avait suggéré un ensemble de textes dans cet endroit du livre de l'Apocalypse. Et cela me fait penser, je vais tout de suite m'évader du sujet, presque. Cela me fait penser à l'apôtre Paul, qui lui dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est à n'y rien comprendre, en fait. Paul se réfugie-t-il dans un genre de valorisation de la faiblesse, parce qu'il est peut-être découragé et qu'il dit, ouais, bon, bah, c'est mon lot d'être fort, d'être faible, de ne jamais arriver. Peut-être que Paul est fatigué de se battre. Lui, le grand missionnaire, est-il peut-être fatigué, brisé par les échecs qu'il a subis, par les efforts infructueux? Alors il dit, oui, ma force, bah, c'est la faiblesse. Voilà. Et les églises, si je reste dans mon parallèle entre l'apôtre Paul et les églises qui souffrent sous la persécution, dont les bâtiments sont détruits et les membres poursuivis par des violents, ne serait-elle pas tentée par un genre de défaitisme destructeur? Devant le constat de leur force si faible, si réduite à néant, ne se résoudrait-elle pas finalement à cesser d'exister? Dans ce message à l'église de Philadelphie, le Seigneur dit aussi « Je connais tes œuvres ». C'est écrit au verset 8, au début du verset 8. « Je sais ce que tu as fait », autrement dit. « Je sais de quoi tu es capable ». Et là, on s'attend à voir la liste. On se dit « Ok, Dieu sait de quoi l'Église est capable, il sait ce qu'elle a fait, alors c'est quoi ?» Et on n'a pas la liste. Et on va se rendre compte, en lisant ce texte, ce n'est pas ça qui va être important. Quelle action extraordinaire aurait-elle bien pu faire si elle en a fait? Aucune. Aucune n'est citée, en tout cas. En revanche, ce qui est cité, c'est que cette Église était fidèle. Verset 8 toujours, mais à la fin. « Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. » S'il y a un mérite de cette Église Philadelphie, dont nous ne savons quasiment rien d'autre, c'est celui-là, celui-ci, d'être resté fidèle, garder la parole, c'est-à-dire être fidèle à la révélation de Dieu, à l'Évangile. Un peu plus loin dans le texte, il y a une expression un petit peu difficile à comprendre. Tu as gardé, c'est au verset 10, parce que tu as gardé la parole de ma persévérance. Qu'est-ce que l'apôtre, enfin le messager ou l'apôtre Jean a voulu dire en disant la parole de ma persévérance? Alors, on peut dire que c'est une exhortation que l'ange ou le messager avait donnée, ou Jésus avait donné de persévérer, donc une parole qui demandait la persévérance, ou une parole qui exigeait la persévérance pour être suivie, ou alors peut-être que c'était une parole qui était la persévérance. Certaines églises, en effet, sont dans l'abondance. Peuvent envisager, comme la nôtre, de refaire leurs bâtiments. Alors que d'autres voient leurs bâtiments détruits par des bombes, des incendies, des bulldozers. Certains chrétiens sont dans des situations paisibles, sans problème. Et d'autres sont sous la pression des difficultés, de l'ostracisme, de la persécution, de la violence. Qu'importe. Dieu nous appelle à tenir bon. C'est le message qui est donné ici sous forme d'encouragement. Tu as peu de puissance, mais tu as tenu bon. Tu as gardé ma parole. Tu es resté fidèle à ta foi. L'apôtre Paul lui-même a connu des situations très variées, très contrastées. Tantôt accueilli, hébergé dans ses voyages, tantôt rejeté, lapidé, mis en prison. Tantôt écouté la nuit durant, le rêve, je le dis à chaque fois, de tout prédicateur. Tantôt moqué, ignoré. Réfuté. Quel bilan Paul tire-t-il de son parcours ? Dit-il, « Oui, j'ai baptisé je ne sais combien, tant de personnes, j'ai témoigné de l'Évangile dans tant de lieux, j'ai provoqué la conversion de tant de personnes. » Non, 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 dans probablement la dernière lettre qu'il a écrite, la deuxième à Timothée, qu'est-ce qu'il dit ? « J'ai combattu le bon combat. » J'ai tenu. 2 Timothée 4, verset 7. Il a tenu le coup. Il est resté fidèle à son engagement de missionnaire, fidèle à l'Évangile. Il a persévéré. Et c'est ça qui le rend heureux. Et c'est pour ça qu'il écrit « J'ai combattu le bon combat ». Il ne s'agissait pas là, vous l'aurez compris, d'un combat armé, mais d'un combat de l'âme, un combat du cœur. Revenons aux églises, puisque c'est le propos du chapitre 3 de l'Apocalypse. Ce qui est important, donc, n'est pas la puissance. Nous avons vu rapidement que les situations des églises sont très contrastées, tant dans le parallèle que l'on peut faire avec l'apôtre Paul, mais ça, ce n'est qu'un parallèle, que dans les diverses situations que nous voyons dans le Nouveau Testament et que nous voyons dans l'histoire de l'Église et que nous voyons aujourd'hui. Et Jésus n'a pas promis de niveler, de faire en sorte que toutes les églises soient bénies ou soient faites de la même manière. Oui, certaines fleurissent, vont bien, d'autres vont moins bien. Et ce n'est pas forcément dû à tel ou tel comportement des gens dans l'église, mais peut-être simplement aux circonstances extérieures. Certaines églises sont riches, d'autres sont pauvres. Certaines églises sont nombreuses, d'autres beaucoup moins. Certaines églises sont organisées, ont pu bénéficier d'une politique respectueuse qui les a laissées construire les choses. D'autres font comme elles peuvent, sous la pression d'un gouvernement qui est parfois, et c'est le sujet du dimanche de l'Église persécutée, qui est parfois ouvertement à persécuter des religions et en particulier les chrétiens. L'église de Philadelphie n'a pas de force. Et pourtant, le Seigneur lui dit « J'ouvre une porte devant toi et personne ne pourra la fermer. » C'est le verset 7. Voici ce que dit le saint, le vrai. Alors ce sont des qualificatifs que Jésus a dans ses différents messages qui sont donnés dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Celui qui a la clé de David, allusion au roi David, et donc qui a l'autorité de David, qui a une autorité royale. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre de telle sorte que personne ne ferme, qui ferme de telle sorte que personne n'ouvre. Je connais tes œuvres, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voilà cette petite église de rien du tout qui n'a pas de force. Voilà ce que le Seigneur dit. J'ai mis devant toi une porte ouverte et cette porte-là, personne ne pourra la fermer. Tu as un avenir, tu as ma présence, tu as ma bénédiction. Même si tu as peu de puissance, là n'est pas la question. La question, c'est que tu as gardé, tu as été fidèle. Pour ce genre d'églises qui sont sous la persécution, qui ont affaire à... Alors, il y a une expression qu'il faut remettre dans le contexte, hein, verset 9, « Je te donnerai les gens de la synagogue de Satan ». Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, synagogue de Satan? Alors, nous sommes dans un contexte juif, les chrétiens viennent de... Enfin, l'Église en est à ses débuts, et donc, dans le judaïsme, les synagogues sont les lieux où on le se réunit. Mais dire synagogue de Satan, c'est presque blasphématoire. C'est une expression très, très agressive pour désigner qui ? Des gens qui mentent, qui se disent juifs et ne le sont pas, c'est-à-dire des gens qui, en gros, utilisent la religion, juive en l'occurrence, pour faire le mal, pour se livrer à la violence. Et là, il y a un genre de revanche. Regardez le verset 9. Je ne sais pas quoi penser de ce verset 9, à vrai dire. Sauf pour la fin. Je ferai en sorte qu'ils viennent se prosterner à tes pieds et qu'ils sachent que moi, je t'ai aimé. C'est le prosterner à tes pieds que j'avoue. Je suis resté perplexe devant cette expression. Vous m'aiderez peut-être à la sortie du culte à la comprendre. Qui sommes-nous pour que des gens se prosternent à nos pieds, ou qui est une église, si petite ou si bénie de Dieu soit-elle, pour que des gens se prosternent à ses pieds? À moins que l'explication soit dans la deuxième phrase. Simplement que l'on reconnaisse que cette petite église de rien du tout, celle qui n'a pas de force, peut-être, oui, elle n'a pas de force, mais elle est aimée par Dieu lui-même. Et là, nos frères et sœurs des églises persécutées dans toutes sortes de régions du monde doivent recueillir cette parole, et nous devons la recueillir en leur nom, comme une consolation. Les gens qui vous persécutent, à un moment donné, vont se rendre compte que Dieu lui-même, il les aime. Il vous aime. Et puis même un peu plus loin... Il parle de faire du temple de Dieu dans lequel on sera, cette église qui est sous la pression, qui a affaire à des gens malfaisants. Cette église sera une colonne dans le sanctuaire de Dieu, sera pleinement reconnue. C'est la persévérance qui compte. Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la force. À ces églises à qui rien ne sourit dans ce monde, le Seigneur puissant, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut n'ouvrir, le Seigneur promet un avenir et il proclame son amour. Alors c'est paradoxal parce qu'on pourrait dire, mais attends, si Dieu dit qu'il les aime, pourquoi il les laisse passer par ce genre de difficultés quand même? Ça c'est un mystère, c'est une... manière que Dieu a de faire les choses que nous ne comprenons pas toujours, moi le premier. Cette liberté, cette apparente distance qu'il a parfois avec nos circonstances. Ce dont nous devons nous souvenir dans ce genre de situation, c'est que cet amour est rappelé à cette Église qui pourrait penser qu'elle est oubliée par Dieu lui-même. Eh bien, l'amour lui est rappelé. Je termine mon propos en nous disant, et nous ? Nous sommes une église, qui ne souffre pas de la persécution. Qu'est-ce qui nous importe à nous ? Est-ce que c'est d'avoir 160 ans ? Nous avons encore quelques éléments de l'exposition, les principaux. Est-ce que nous bombons le torse en disant « Nous, nous sommes une communauté de 160 ans, ah ouais !» Est-ce que c'est ça qui est important pour nous ? Est-ce que ce qui nous semble important, c'est d'être bien organisé, d'avoir des responsables de service, des commissions, un président, des oh, formidables ? Est-ce que c'est ça qui est important pour nous, d'être bien organisé, bien structuré ? Est-ce que ce qui compte, ce sont nos bâtiments ? Ah oui, on va avoir un projet, ça va être magnifique, on aura de la place, on aura des beaux locaux, on aura des belles fenêtres, on aura des beaux plafonniers. Oui, ça va être bien, on va être une belle église. C'est ça qui est important pour nous ? Et si un jour, nos bâtiments étaient détruits par une bombe, comment nous réagirions ? Vous êtes déjà posé la question ? Et si l'un de nous était agressé parce qu'il est chrétien, vous êtes déjà posé la question. Si les pasteurs étaient arrêtés, comme ils le sont, nos frères et sœurs sont arrêtés dans divers pays parce qu'ils ont la responsabilité d'une église, d'un groupe de maisons. Comment nous réagirions si un coup, Étienne ou moi, nous étions arrêtés parce que nous sommes pasteurs ? Qu'est-ce qui se passerait dans notre église ? Comment on réagirait du point de vue des sentiments ? Il nous faut relire à ce moment-là ce que ce message à l'église de Philadelphie nous dit. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre que nous sommes. Ce ne sont pas nos actions. Je vous rappelle que dans l'église de Philadelphie, elles ne sont pas citées, les actions. Dieu les connaît. Si un jour ce genre de choses nous arrive, et je ne le souhaite évidemment pas, nous devons nous souvenir de l'essentiel, de ce qui fait de nous que nous sommes une église. Et même si elle n'arrive pas, si nos bâtiments restent, si nous pouvons faire les travaux qui sont envisagés par la commission bâtiment et le conseil d'administration, si nous pouvons avoir du monde au culte, si nous pouvons nous organiser, si nous pouvons, etc., cela n'empêchera pas que la chose qui compte le plus parmi nous, ce sera la persévérance, ce sera de garder la parole de Dieu dans nos cœurs. Qu'importe une église bien organisée, si la parole de Dieu, si la Bible n'est pas vécue par ses membres. Que veut dire garder la parole ? Parce que tu as gardé ma parole, verset 8 et verset 10, garder la parole de la persévérance. Qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Alors je me suis dit peut-être qu'on pourrait penser qu'il s'agit de la... Vous voyez, j'ai une Bible entre les mains, de la garder, de faire en sorte que ce soit un livre dont on prend soin sur une étagère. On fait la poussière de temps en temps. Est-ce que c'est ça, veut dire garder la Bible ? Non, hein. C'est pas possible, ça. Est-ce que ça veut dire garder la saine doctrine, la seule, la vraie, celle que on a toujours enseignée ? Pas si sûr, chers amis. Je pense que, sans nier la nécessité d'avoir des opinions et une foi fondée sur la Bible, je pense que la première des choses que ce texte veut dire, c'est ce que le psalmiste disait bien avant, « Je sers ta parole ». Dans mon cœur. Ça veut dire que chacun, si nous voulons qu'un jour le Seigneur vient nous voir et nous dit, ben, vous n'êtes pas une église puissante, bon, mais ce que j'ai bien aimé chez vous, la bonne nouvelle de Mulhouse, c'est vous avez gardé ma parole. Et ça voudra dire que nous, individus, hommes, femmes, jeunes et vieux, nous aurons eu avec le Seigneur. Parce qu'il est dit aussi, tu n'as pas renié mon nom, verset 8. Nous aurons eu avec le Seigneur une relation honnête, une relation franche, sincère. Et nous aurons pratiquer la Bible de notre mieux, chacun pour sa propre vie. Aucun de nous, je vais tenter un constat pour lequel je n'ai pas les éléments, aucun de nous ne met en œuvre tout ce qu'il sait de la Bible. La barre est trop haut. Nous sommes tous au défi de nous améliorer, et c'est très bien comme ça, on grandit tout le temps, c'est une preuve de vie. Chers amis, c'est ça, une église qui garde la parole de Dieu. Une église qui réussit n'est donc pas une église puissante. Une église caractérisée par la puissance, mais c'est une église caractérisée par la confiance en Dieu et la persévérance. L'un n'empêche pas l'autre, d'ailleurs. Plaise à Dieu que toutes les églises soient belles, grandes, puissantes, organisées, riches et tout ce que vous voulez. Mais l'important dans ce texte de ce matin n'est pas là. L'important, c'est dans la confiance. C'est pour ça que j'ai titré « Puissance ou confiance ». Je vous invite à prier. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous pouvons nous confier en toi. Nous te remercions parce que tu nous aimes, comme tu as aimé cette église de Philadelphie. Nous te remercions parce que tu ouvres des portes devant nous, parce que c'est toi qui es le maître, c'est toi qui es Dieu. Et Seigneur, nous savons aussi que nous avons du chemin à faire, nous, chacun pour soi, dans sa fidélité à ta parole, à la Bible, dans ses engagements personnels. Seigneur, bénis chacune et chacun d'entre nous dans la voie qui est la sienne. Merci de nous guider, merci de nous éclairer, merci de nous accompagner. Nous te louons, Seigneur. Bénis aussi nos frères et sœurs pour lesquels l'existence en tant qu'Église est déjà en soi un combat. Le fait d'affirmer la foi qu'ils ont ou qu'elles ont est une prise de risque. Nous te prions de les bénir particulièrement ce jour. Amen.